bonsoir. Les travaux de la 11e conférence des gouverneurs des provinces ont débuté mercredi 26 novembre à Kalemie, dans la province du Tanganyika, placée sous le thème « Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoire ». Ce forum de 3 jours va passer en revue les enjeux locaux. À l'ouverture de cette conférence des gouverneurs, le chef de l'État a évoqué les tensions récurrentes entre gouverneurs et assemblée provinciale parmi les défis qui entravent le développement des provinces. À cela s'ajoute, selon lui, une insécurité persistante, source des crises humanitaires et d'instabilité institutionnelle qui affaiblit le fonctionnement des administrations locales. Le chef de l'État a aussi fustigé la gestion opaque des ressources et une allocation inadéquate des budgets d'investissement qui freinent également la croissance de nos territoires. Sous la direction du président de la République, le gouverneur des provinces va au cours de ses assises adopter des stratégies à mettre en place pour renforcer la gouvernance et le développement dans leurs entités respectives. Que pensez-vous des constats faits par le chef de l'État sur les causes du non-développement des provinces? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce jeudi 28 novembre 2024. Participe au débat Soudi Kimputo Alimasi, il est expert en décentralisation. Maître Soudi, bonsoir.
Bonsoir.
Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Il est aussi expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut à l'Est d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Frédéric Amani, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir aux co-débatteurs et auditeurs de Radio Capit.
Fabrice Ngabo est également avec nous dans ce débat. Il est expert en fiscalité et finances. Fabrice Ngabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Kisangani, dans la province de la Tchopo, vous nous suivez sous la 94.8. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV canal 867. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Il se tient depuis hier mercredi à Kalemie dans la province du Tanganyika, la 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Le chef de l'État a lancé officiellement les travaux de ses assises. Nous en parlons avec Paulin Munanga depuis Kalemie.
Paulin Munanga, bonsoir.
Bonsoir Dona Madimba.
Avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler tout d'abord quelle est l'importance de cette conférence des gouverneurs des provinces?
Comme le thème de cette 11e session l'indique, il s'agit de renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local des 145 territoires. Le chef de l'État a fait savoir dans son discours d'ouverture que cette conférence contribue à la consolidation de l'unité nationale et vise à renforcer la collaboration entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux.
Quels sont les différents thèmes qui sont abordés au cours de ces assises?
Naturellement, il y aura l'évaluation des sessions précédentes et chaque autorité provinciale va faire l'état des lieux de sa province. Et puis le chef de l'État Félix Tshisekedi a recommandé aux gouverneurs des provinces de concentrer leurs réflexions lors des échanges sur certains aspects comme la gouvernance responsable, facteur clé du développement socio-économique. Il y a aussi la gestion autonome et efficace des recettes pour les entités territoriales décentralisées. Il a en outre recommandé aux gouverneurs d'établir sur leur implication active dans l'avancement du PDL 145 territoire. Félix Tshisekedi a annoncé en outre un contrôle efficace d'une province comme levier de développement. Il a aussi fait savoir qu'un contrôle régulier, rigoureux et constructif des actions des gouverneurs et des institutions provinciales est essentiel pour garantir la transparence et obtenir des résultats concrets.
Les gouverneurs ont adressé un mémorandum au chef de l'État. Qu'en est-il au juste?
Les gouverneurs ont présenté leurs doléances au chef de l'État. Dans leur mémo, ils soulèvent la problématique des non-paiements des frais d'installation des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, les non-paiements des frais d'installation des conseillers communaux, les non-paiements de la rétrocession due aux institutions provinciales permettant de payer les émoluments des membres du gouvernement, mais également ceux des honorables députés provinciaux et les non-paiements des gouverneurs provinciaux depuis la précédente législature. Et d'après les gouverneurs, plusieurs défis sont restés non résolus à la précédente conférence. C'est ainsi qu'ils ont décidé de les rappeler au chef de l'État. En réaction, le président de la République dit avoir bien compris les desiderata des gouverneurs et il rassure que des instructions seront données aux acteurs concernés pour y apporter des réponses.
Paul Munanga, je vous remercie.
Maître Soudi Kimputualimasi, je rappelle que vous êtes expert en décentralisation. 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces qui se tient à Kalemi dans la province du Tanganyika. Vous avez suivi dans cet échange avec notre confrère, avec notre reporter sur place, Paulin Munanga. Les gouverneurs des provinces ont présenté leurs doléances au chef de l'État. Dans ce document, il soulève notamment la problématique de non-paiement des frais d'installation des gouverneurs et vice-gouverneurs, le non-paiement des frais d'installation des conseillers communaux, le non-paiement de la rétrocession due aux institutions provinciales. C'est un peu les mêmes doléances qui reviennent à chaque conférence des gouverneurs. Pourquoi, selon vous, Maître Soudi, on a l'impression que ce sont les mêmes problèmes qui reviennent et qui ne trouvent pas de solution. Mais avant de répondre à cette question, comment d'abord vous analysez, vous évaluez la tenue de la 11e conférence des gouverneurs à Kalemi dans la province du Tanganyika?
Merci beaucoup, Kelly, pour la question. Je pense que pour que nous puissions répondre aux éléments de la question que vous venez de nous poser tout à l'heure, qu'on essaye un peu de situer la conférence des gouverneurs par rapport au fonctionnement des institutions de notre pays. Je pense que la conférence des gouverneurs qui a été instituée par l'article 200 de la Constitution, c'était en prévision de la mise en place d'un mécanisme qui puisse permettre à ce que le pouvoir central, qui ne dispose d'aucun élément de tutelle normalement, parce qu'il y a eu beaucoup d'entorses dans certaines lois de mise en œuvre de ce processus de décentralisation, notre pays, à partir de la Constitution, a décentralisé en consacrant un régionalisme politique au niveau des provinces. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tutelle du pouvoir central sur les provinces. Les provinces disposent des institutions, notamment le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, qui fonctionnent comme institutions à part et qu'il fallait qu'il y ait un mécanisme qui puisse permettre à ce que les exécutifs, ici ce ne sont pas toutes les institutions qui doivent s'y retrouver, l'exécutif du pouvoir central et l'exécutif des institutions provinciales, qui est le gouvernement provincial avec à la tête le gouverneur de province, puissent disposer d'une instance à travers laquelle ils peuvent discuter sur les questions qui relèvent des différentes compétences exclusives de chaque niveau, mais aussi des compétences concurrentes pour permettre à ce que cette instance donne, et c'est ça d'ailleurs la mission de la conférence des gouverneurs, c'est de mettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République à différents niveaux. C'est-à-dire, si dans le cadre du fonctionnement harmonieux des institutions de l'ensemble du pays, il faudra que le pouvoir central puisse adopter une disposition légale quelconque, c'est à l'issue de cette conférence que des recommandations pourront être faites par les provinces qui, elles, ne participent pas au fonctionnement de tous les jours des institutions qui sont ici du pouvoir central. La même chose en ce qui concerne le fonctionnement des provinces, qui, par l'élaboration des édits des assemblées provinciales, le gouvernement central peut aussi faire des recommandations en ce qui concerne le fonctionnement des institutions provinciales et à travers la production des édits au niveau des assemblées provinciales. Et le gouvernement provincial est disposé pour cela à préparer des projets d'édits dans ce sens. C'est dans ce cadre que la conférence des gouverneurs est censée se réunir. Ce n'est pas une grande réunion de toutes les institutions. Et lorsque vous voyez sa composition, seuls les autres ministres membres du gouvernement peuvent être invités. Les membres des assemblées provinciales ne sont pas membres de la conférence des gouverneurs. Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, les députés nationaux et provinciaux ne sont pas membres de la conférence des gouverneurs. C'est une discussion des exécutifs.
Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a vu à Calémie...
Ce qui n'est pas le cas, effectivement, c'est tout le monde qui est là, même les chefs des entreprises et tout ça. Et ça, c'est une violation même de la loi organique 08/015, 17 octobre 2008, portant modalité d'organisation et fonctionnement de la conférence des gouverneurs. Donc, il faudra que ça soit recadré dans son sens strict, parce que c'est une discussion entre deux exécutifs. L'exécutif du pouvoir central qui est conduit par le chef de l'État, je parle ici d'exécutif, je n'ai pas parlé du gouvernement, d'exécutif. Et l'exécutif du gouvernement provincial qui a à sa tête des gouverneurs. C'est comme ça qu'on l'appelle la conférence des gouverneurs. Et son membre, le président de la République, le premier ministre, les ministres de l'Intérieur et les gouverneurs des provinces. La seule possibilité d'inviter d'autres personnes en dehors de cette description, c'est seulement des membres du gouvernement. Donc, les autres ministres peuvent être invités, qui sont membres de l'exécutif national, pour une question quelconque qui concerne tel ou tel autre secteur. Et les autres tralala là, ils ne sont pas membres de la conférence, et c'est ça qui complique des fois beaucoup de choses dans la tenue des différentes sessions de conférences des gouverneurs. Maintenant, je reviens au niveau des différents thèmes, notamment des questions évoquées sur le paiement des frais d'installation des gouverneurs, les frais d'installation des conseillers communaux, des rétrocessions. Mais ce sont les mêmes problèmes qui reviennent tous les jours. Normalement, les provinces ne peuvent pas poser leurs problèmes de frais d'installation ou des frais d'installation des entités locales au gouvernement central, parce que les trésors publics, il n'est pas la caisse nationale dans la caisse publique de l'État ou le trésor, il n'est plus unifié au regard de la Constitution. Les finances du pouvoir central sont distinctes des finances des provinces. Là où il y a des problèmes, c'est la troisième problématique qui a été posée. La retenue est la source qu'on appelle aujourd'hui rétrocession. Même le mot rétrocession, c'est une violation de la Constitution. Le pouvoir central ne laisse pas aux provinces de retenir les 40% de ressources à caractère national pour lui permettre de financer son fonctionnement, notamment tout ce qui a frais d'installation des gouverneurs, frais d'installation des entités territoriales décentralisées. Les conseillers communaux sont les membres des organes des entités territoriales décentralisées qui, elles, sont bénéficiaires du quota de la retenue à la source des 40% que la province doit faire. Dès lors que cette retenue, qu'ils appellent abusivement rétrocession, n'est pas faite, ça veut dire que la province sera totalement dans l'impossibilité de financer tous les autres éléments dont il parle là des frais de fonctionnement X, Y. Même si, à côté de cette rétrocession, parce que la grande recette, c'est cette retenue à la source, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les recettes locales, les recettes provinciales et les recettes des entités territoriales décentralisées. Malheureusement, que ce soit au niveau des provinces, que ce soit au niveau des entités territoriales décentralisées, à part les quelques provinces à vocation minière, ces dépenses-là, ne représente rien par rapport à ce qui caractérise les 40% des recettes à caractère national qui doivent être retenues à la source. Et donc, ces questions dès lors que le gouvernement central n'aura pas mis en application la disposition constitutionnelle relative à la retenue à la source, elles vont toujours revenir, ces questions-là, parce que les provinces, pour la plupart, qui ne sont pas à vocation minière, je le précise, parce qu'aujourd'hui, avec les redevances minières qui sont dues aux provinces et aux autres entités territoriales décentralisées, les différentes provinces et entités qui disposent de ces exploitations minières essaient de se suffire avec les recettes locales, notamment avec ces redevances. Mais ailleurs, et ça risque d'être des provinces comme des Bazouélé, le nom échappe, excusez-moi, certaines provinces que je vais citer ici, Sankourou, elles sont nombreuses, ces provinces-là. Et donc, cette question va toujours revenir parce que les frais d'installation, les frais de ceci et même les émoluments des assemblées provinciales, j'ai vu que les assemblées provinciales sont venues réclamer leurs émoluments au niveau du cabinet du Premier ministre. Dans un processus de décentralisation comme le nôtre, c'est une grande aberration parce que ces dépenses relèvent des dépenses particulières des provinces. Et non du pouvoir central.
Merci. Oui. Frédéric Amani, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Comment vous analysez-vous la tenue de cette 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces? Le chef de l'État, lors de l'ouverture de cette session a évoqué les tensions récurrentes entre les gouverneurs et assemblées provinciales parmi les défis qui entravent le développement des provinces, mais également l'insécurité persistante, source des crises humanitaires et d'instabilité institutionnelle qui affaiblit le fonctionnement des administrations locales.
Bien, merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat et de votre question pertinente, Madame Kelly. Alors, ce qu'il faut noter par rapport à toutes ces causes du non-développement des provinces, je crois que il faut avoir le courage de les dire. Je crois l'avoir dit ou la répétition est la mère des sciences, dit-on. Il n'y a pas de bonne gestion, il n'y a pas de gestion efficiente et efficace sans le respect des textes, sans le respect des normes. Madame Kelly, on a beau discuter de telle question ou telle autre question, que ce soit en matière de la gestion administrative ou gestion sécuritaire et autres, mais sans le respect des normes, le respect des principes, le respect des textes, eh ben, on va continuer à tourner à rond. Je crois que les causes du non-développement, notamment les tensions récurrentes entre les gouverneurs et les assemblées provinciales, insécurité persistante, source de crise. Je crois que, en quelque sorte, on peut dire des choses comme ça, c'est la faillite du respect ou le non-respect d'application des textes. Les textes qui régissent l'administration publique, les textes qui régissent, n'est-ce pas, les gouvernements provinciaux ou ces textes qui régissent les pouvoirs exécutifs. Ça, c'est de un. De deux, je crois que il y a lieu de parler de cette tension ou de ces tensions récurrentes entre les gouverneurs et les assemblées provinciales. Là, je vais soulever des questions. D'un côté, à quel moment on assiste aux tensions récurrentes? C'est lorsque, n'est-ce pas, on pense, pour certains, on pense que le gouvernement, les gouverneurs, c'est vrai, ils émanent des députés provinciaux, mais il y a une sorte de chantage que les assemblées provinciaux, les assemblées provinciales, je vais dire, n'est-ce pas, manifestent vis-à-vis des gouverneurs des provinces. Ça, c'est de un. Et cela crée, n'est-ce pas, les tensions, comme le président de la République l'a si bien dit dans son discours. Mais il y a aussi les tensions dans la mesure où, en quelque sorte, les assemblées provinciales, certaines, veulent mettre, excusez-moi l'expression, sous-titelle les gouvernements provinciaux ou les gouverneurs des provinces en leur demandant. On a décrié tout cette question et voilà pourquoi je voulais ouvrir une parenthèse. L'une des questions que beaucoup se posent, de vouloir que désormais que ce soit le président de la République ou une autre instance qui nomme les gouverneurs provinciaux et non que ce soit les élus provinciaux qui passez-moi la redondance, qui élisent les gouverneurs, c'est par rapport à ces chantages-là ou à ces conflits où certains assemblées provinciales pensent, n'est-ce pas, maîtriser les gouverneurs provinciaux et que à chaque fois qu'il y a une motion qu'on veut voter contre X ou Y membre du gouvernement, il faut aller négocier et, n'est-ce pas, harmoniser. Moi, je pense que il y a lieu aujourd'hui. Ça, c'est la 11e conférence. Je note que le président de la République, le président Félix, est à la 5e conférence. Mais qu'est-ce qu'on a fait des autres recommandations des différentes conférences qui, à mon avis, reprennent presque les mêmes choses? Excusez-moi de le dire à haute voix. Nous avons tendance à penser des nouvelles réponses aux crises que nous avons en empruntant, n'est-ce pas, les mêmes méthodes. Lorsque vous lisez, Madame Kelly, les 5 dernières conférences auxquelles le président Félix a présidé, les thèmes semblent être identiques ou il y a peut-être quelques nuances. Mais il y a lieu aussi de s'interroger, n'est-ce pas, des différentes recommandations des anciennes conférences pour que celle-ci, la 11e conférence, puisse, n'est-ce pas, élaguer ou apporter des solutions par rapport aux tensions récurrentes entre les gouverneurs, l'insécurité persistante comme source des crises humanitaires, la gestion opaque des ressources. Tout ça, je crois qu'il y a lieu de résoudre ces causes, un, en appliquant ou en respectant les textes, deux, en appliquant les recommandations des différentes conférences. J'ai comme impression, on se contente d'organiser des conférences, ce qui est une bonne chose, mais l'applicabilité, c'est ce qui pose problème. Il y a la question de la caisse de péréquation qui souffre, n'est-ce pas, d'un problème de la transparence, n'est-ce pas, et de la bonne gestion. Cette caisse de péréquation devrait pallier à un problème de celui de d'aider d'autres provinces, M. Soudi est revenu là-dessus d'une autre manière, c'est-à-dire certaines provinces qui n'ont pas assez de ressources, eh bien, devraient bénéficier de cette caisse de péréquation. Mais malheureusement, ce n'est pas applicable. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'organiser les différentes conférences de gouverneurs pour entre les exécutifs, mais c'est mieux d'appliquer les textes au niveau provincial et au niveau national. On a parlé de cette question de la retenue à la source qui est un grand problème et qui freine même le développement des provinces. Aussi longtemps que vous voulez que les provinces avancent ou se développent, ce qui est une bonne chose, mais entre-temps aussi, vous ne donnez pas des moyens nécessaires aux provinces pour qu'elles se développent. C'est dire une chose et son contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la 11e conférence, plus d'une décennie déjà, eh ben, je crois que les causes ici, c'est un, la non-applicabilité des textes, des deux, c'est aussi cette question ici de ne pas promouvoir, n'est-ce pas, la retenue à la source qui devrait aider, à mon avis, les provinces à se développer et la caisse de péréquation, comme le veut la Constitution de la République, aider les provinces qui n'ont pas assez de ressources et, n'est-ce pas, de se retrouver. Et enfin, pour terminer, je pense que il y a lieu ici de s'interroger de ce qu'on appelle en sciences politiques ou en relations internationales de la paradiplomatie. Bon, peut-être l'émission aussi a un caractère pédagogique, c'est-à-dire c'est la capacité de donner aux provinces voisines des autres pays, de nouer des partenariats au lieu d'attendre, n'est-ce pas, les mots d'ordre ou les cutis du gouvernement central. Je crois que cela va aider à ce que, par exemple, une province comme la province du Haut-Katanga, qui peut nouer, n'est-ce pas, sous la supervision, bien entendu, du pouvoir central, un partenariat ou une coopération avec les provinces voisines de la République zambienne. On peut prendre la province de Lualaba avec les provinces voisines de la République angolaise, la province du Sud-Kivu avec les provinces voisines de la province de la République burundaise, ainsi de suite. Et que, à leur tour, les provinces limitrophes devraient aussi nouer des partenariats avec les provinces enclavées comme la province de Maniema, comme la province de la Tchopo, comme la province, n'est-ce pas, de Kasaï Central, et ça pouvait permettre à ce que ces provinces puissent se développer. Voilà comment Merci. On peut analyser les causes de non-développement des provinces, et nous pensons que cette fois-ci, cette 11e conférence sera une occasion de jeter les bases pour des solutions idoines afin que les provinces se développent.
Paulin Senga, qui nous écrit depuis Kisangani, pense que presque 85% du décollage de développement des provinces se trouve à Kinshasa. Il est important, sinon urgent, que le pouvoir, il est urgent de pouvoir réduire le pouvoir exécutif de Kinshasa sur les provinces. Et vous verrez le vrai décollage des développements des provinces. Et chaque province devrait avoir une antenne permanente de l'IGF pour surveiller ainsi la gestion des ressources. Alors, Paula, plutôt Fabrice Ngabo, vous êtes expert en fiscalité et finance. Votre point de vue sur les constats faits par les chefs de l'État, les constats, il a souligné certaines causes qui freinent le développement des provinces. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bonsoir madame, et merci pour l'invitation. Je voudrais aussi saluer les co-débatteurs avec qui nous discutons de cette thématique ce soir. Alors, le président de la République, au cours de cette 11e session de conférence des gouverneurs, c'est vrai, il a étayé certains éléments qui freinent le décollage des provinces, mais il en a oublié d'autres qui sont aussi principaux, hein. Notamment la question d'énergie, il n'y a pas fait allusion de manière particulière, notamment cette problématique-là. Mais de manière globale, je voudrais axer mon intervention sur quatre points. Le premier point, c'est que je constate, comme les autres, les gouverneurs sont revenus sur les mêmes préoccupations. Les mêmes préoccupations qui accusent un problème d'insuffisance des recettes pour les provinces. Alors que, comme vous le savez, les provinces aussi disposent de beaucoup de ressources, mais malheureusement, qu'elles n'arrivent pas à mobiliser. Donc, il y a une faiblesse notoire de mobilisation de recettes, d'abord provinciales. Parce que c'est bien de parler de la rétrocession, je vais y revenir, mais il faut noter aussi que les provinces ont beaucoup de recettes qu'elles peinent à mobiliser. Les recettes provinciales sont de deux types. Il y a des recettes provinciales d'intérêt commun, c'est-à-dire celles qui appartiennent à la fois aux gouvernements provinciaux et aux entités territoriales décentralisées, mais également il y a des recettes provinciales spécifiques à chaque entité, spécifiques à la province, spécifiques aux villes, spécifiques aux communes, spécifiques aux chefferies et secteurs. Je vais d'abord aux recettes provinciales d'intérêt commun. Vous avez déjà la constitution qui a rétrocédé un certain nombre d'impôts, pratiquement quatre aux provinces. Nous avons l'impôt foncier, nous avons l'impôt sur les revenus locatifs, vous avez l'impôt sur les véhicules et vous avez l'impôt sur la prêter de concessions minières et hydrocarbures. Madame, déjà avec ces cinq impôts, sans oublier que il existe toute une nomenclature de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative des provinces, parmi lesquelles également vous avez ces recettes provinciales d'intérêt commun et d'autres qui sont spécifiques. Quand vous voyez toutes ces ressources-là et que les provinces continuent à poser des problèmes criants de recettes pour pouvoir être à la hauteur des attentes des populations, il y a là un problème sérieux de mobilisation des recettes. Comment est-ce que les provinces ne peuvent pas investir en termes de capacitation, en termes des nouvelles technologies de communication, notamment en termes de logiciels efficients dans la collecte des recettes provinciales, alors qu'elle a suffisamment de recettes, des ressources qu'elle n'arrive pas à mobiliser. Si un travail important est fait, notamment en matière d'impôts fonciers, c'est toutes ces propriétés foncières que nous avons ici et sur lesquelles les provinces ne recouvrent pas cet impôt-là. Est-ce que cela est du fait du gouvernement central? Je ne pense pas. Vous avez l'impôt sur les revenus locatifs, madame. C'est presque tout le monde qui est locataire. Est-ce que tout celui qui est locataire dans ce pays acquitte l'impôt relatif? Non. Vous avez des régies financières provinciales qui prélèvent cet impôt de manière sélective. Elles se limitent dans des artères principales, alors que les gros de matières imposables est tenu par la population qui n'est pas sensibilisée, qui n'est pas contactée par les régies financières compétentes. Et donc, il y a un problème sérieux de capacitation de régies financières provinciales, mais également qui affecte la capacité de mobilisation des provinces. Ça, c'est un élément important. S'agissant des ETD, vous savez que les ETD dans ce pays, je parle de villes, communes, secteurs et chefferies, les ETD, pour les trois dernières, elles ont un impôt important, mais qu'elles n'arrivent pas à mobiliser. Et le commun des mortels ne le connaît même pas. La population qui était, évidemment, la population qui n'est pas contributrice à l'IPR, à l'impôt sur les rémunérations, ne le connaissent même pas. C'est l'impôt personnel minimum à charge des nationaux qui devait être acquitté par, on va dire, tous ceux qui ne payent pas l'impôt relatif aux rémunérations, donc tous ceux qui ne sont pas employés. Et ça constitue un manque à gagner pour les ETD. Si vous allez par exemple dans les communes de Kinshasa, vous posez la question si on connaît cet impôt, on le connaît pas. Ça, ce n'est pas un travail du gouvernement central, c'est un travail des provinces, n'est-ce pas? Au niveau provincial, il y a un travail de fond, un travail important qui doit être fait sur d'abord la formation et la j'insiste bien sur le concept capacitation des régies financières, qui doivent aussi rimer avec les nouvelles technologies de l'information et de communication. Nous sommes à l'heure où toutes les administrations du monde aujourd'hui sont en train d'être numérisées et on ne devrait pas rester avec des régies financières où tout s'est fait avec les papiers. On ne pourrait pas atteindre les objectifs souhaités.
Mais qu'est-ce qui peut expliquer, Fabrice Ngabo, très rapidement, ce manque de mobilisation des recettes par les provinces? Vous dites vous-même, vous l'avez souligné, que c'était un problème sérieux. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Je pense que ce qui peut l'expliquer, c'est aussi une absence de volonté politique dans les chefs des animateurs des provinces. Je vous donne un cas, sans citer le gouverneur ou la province. Nous étions une équipe d'experts d'une province voisine de Kinshasa, où nous avons constaté que dans la province, vous avez pratiquement une vie économique qui n'existe pas. Alors premièrement, nous rencontrons le gouverneur pour lui proposer notamment l'accompagnement des régies financières, de la régie financière provinciale, mais également le fait que la province n'a pas, par exemple, des structures de formation professionnelle pour la jeunesse et qu'on sort, il y a beaucoup de choses, mais je parle principalement de la régie financière qui accuse un problème sérieux. Mais vous trouvez le gouverneur, il vous reçoit, il est très intéressé, mais après, vous ne sentez pas une volonté, une détermination à pouvoir arriver à bout de l'initiative. Je pense quelque part, il y a un manque de volonté parce que les gens se sont mis en tête que on attend la rétrocession, elle doit tomber. Évidemment, les provinces ont droit à la quote-part qui leur est réservée par la Constitution. Mais déjà, le fait qu'ils se soient mis ça en tête, pour certains, ils ont perdu carrément la volonté de pouvoir exploiter les potentiels fiscaux que regorgent leurs provinces sur base de ces ressources que je vous ai citées. Donc alors, là, il y a un problème sérieux de manque de volonté.
Est-ce qu'on peut donc dire que les provinces se bloquent elles-mêmes et Kinshasa n'est pas à la base, comme certaines personnes le disent, d'être à la base ou la cause du blocage, du décollage des certaines provinces?
Bon, les provinces, c'est vrai, ont une part de responsabilité en ce qu'elles peinent à pouvoir organiser et améliorer de manière continue les administrations fiscales provinciales. C'est une part de responsabilité, mais évidemment, il y a une autre grande part de responsabilité qui revient au pouvoir central. En ce que, beaucoup de mes co-débatteurs l'ont relevé, madame, il y a une volonté manifeste à bloquer le fonctionnement des provinces par le pouvoir central, en ce que le gouvernement central pratiquement avait refusé d'appliquer les dispositions constitutionnelles prévues à l'article 175, les dispositions de la Constitution de notre pays, c'est le 18 février 2006 tel que révisé le 20 janvier 2011, qui prévoit la retenue de 40% à la source, la retenue de recettes à caractère national. Voyez-vous, madame, alors que déjà la Constitution elle-même a posé une clé de répartition et qui est très facile à appliquer. C'est-à-dire, comme vous le savez, le pouvoir central a un compte qui est géré au niveau de la Banque centrale et la Banque centrale a un compte pour chacune des provinces. Et donc, il est très facile lorsque, par exemple, de manière hebdomadaire, les provinces ont encaissé, les régies financières centrales, nationales, ont encaissé des ressources. Et à caractère national, il est très facile pour la Banque centrale, par exemple, de retenir 40% pour les provinces et 60% pour les pouvoirs centraux. Encore que vous le savez, il y a aussi une quantité de 10% qui devait être affectée à la Caisse nationale de péréquation. Et donc, au fond, le gouvernement central ne devait disposer que des 50% des recettes à caractère national. Alors, on a créé un concept magique de rétrocession qui ne figure nullement dans la conscience de notre pays. Alors, cette rétrocession pose des problèmes dans son application. Alors, comment expliquer que le concept de retenue de 40%, qui est déjà très facile à appliquer, on ne s'en occupe pas, mais on va chercher des concepts magiques qui peine à être appliqué.
Merci.
Cela signifie tout simplement qu'il y a un problème de volonté aussi, madame, au niveau du pouvoir central.
On va vous garder dans cette émission, Fabrice Ngabo. On va vous garder dans cette émission. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Avant de vous redonner la parole, on va laisser aussi la place aux auditeurs de pouvoir s'exprimer, de donner leur point de vue sur ce sujet. On va ouvrir notre standard pour écouter cet auditeur qui nous appelle depuis Cabinda, dans la province de Lomami.
C'est Christian Ankonde, depuis Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Nous saluons cette 11e conférence des gouverneurs des provinces, mais nous sommes déjà à la 11e conférence. Il pouvait se demander pourquoi toutes les conclusions tirées dans toutes les conférences n'aboutissent pas toujours. Nous sommes déjà habitués aux discours cyclés qui ne se réalisent pas. Les programmes d'urgence des 145 territoires sont en arrêt dans d'autres provinces par manque de suivi. À mon avis, le gouvernement doit monter un comité de suivi pour superviser toutes les actions lancées par le gouvernement central et la manière de fonctionnement des provinces. Cela donnerait l'assurance d'une évolution des travaux exécutés.
Maître Soudi.
Oui, j'ai suivi mon frère qui est à Cabinda, évoque l'arrêt des travaux du programme des 145 territoires. Et il soutient que les conclusions des différentes conférences n'aboutissent pas. D'abord, je devais lui rappeler que les discussions qui sont menées dans la conférence des gouverneurs doivent nécessairement rester dans le cadre des échanges et des discussions entre institutions provinciales et institutions nationales. Le texte qui organise cette instance est clair. Lorsqu'on amène des discussions qui glissent beaucoup plus dans le sens politique, on laisse les problèmes essentiels, les résolutions vont aussi être politiques. Il est question ici de la possibilité de permettre à ce que les institutions provinciales, comme l'instance elle-même s'appelle la conférence des gouverneurs, ici c'est une sorte d'arbitrage que le chef de l'État normalement, devra apporter dans le sens d'améliorer le fonctionnement des institutions. Lorsque la question financière se pose, la retenue de 40% n'est pas effectuée, la caisse de péréquation n'a jamais fonctionné, les recettes locales, et M. Fabrice l'a bien expliqué, dans leur diversité au niveau des provinces et des entités territoriales décentralisées, ne sont pas levées comme il faut, ne sont pas collectées comme il faut. Encore qu'il y a cette question de différentes assiettes compte tenu de viabilité des différentes provinces. Lorsqu'on ne traite pas de ces questions, on ne résout pas ces questions qui sont d'ailleurs d'ordre constitutionnel, on n'aura jamais de réponse. Les programmes des 145 territoires, ce sont des programmes de centralisation, pas de décentralisation. Normalement, la construction de ces infrastructures, par exemple, devait être confiée aux entités territoriales décentralisées, pas aux territoires, parce que les territoires sont déconcentrés. Un administrateur de territoire, normalement, ne peut pas gérer un projet d'investissement, parce que lui n'est qu'un coordonnateur, un inspecteur. Ce sont les chefs de secteur, les chefs de chefferie, les maires, les bourgmestres qui devaient porter ces projets-là. Et le pouvoir central qui est intervenu, là encore, il y a une question à poser, parce que si nous respections nos textes, on devait savoir à partir de quel compte ou quelle finance, est-ce que ce sont les finances du pouvoir public ou c'est la quotité des finances des provinces que cet argent a été prélevé. Et à ce moment-là, on confie à ceux qui sont censés gérer les projets de développement local, qui sont les entités territoriales décentralisées. Et voilà pourquoi les projets sont bloqués, parce que tout est vertical. Nous sommes pratiquement dans le contexte de la décentralisation de 1982. Un deuxième élément.
Essayez d'être très concis, Maître Soudi, parce qu'on court derrière le temps. Si vous pouvez vous résumer, oui. Être concis.
Effectivement, bon, je vais me résumer, c'est-à-dire ici, pour que nous puissions arriver à une solution efficace, il faudra que, d'abord, les trois dispositions financières soient appliquées efficacement. Si aujourd'hui, on peut laisser aux provinces la possibilité, pas de la rétrocession n'existe pas. Il y a la retenue à la source de 40%. Si la Caisse nationale de péréquation peut être activé avec les 10%, parce que la Constitution a donné l'esprit de 50-50, 50% pour le développement des provinces et 50% pour le fonctionnement des institutions du pouvoir central. Les 10% de la Caisse nationale de péréquation, c'est pour cet équilibre, gérer les projets des provinces qui ne sont pas nantis, de manière à ce que le développement ne soit pas à plusieurs vitesses. Deuxième élément, la dépolitisation des institutions provinciales. Et le président de la République a une arme dans la loi sur la libre administration des provinces, c'est la possibilité de dissolution des assemblées provinciales en cas de crise persistante entre les institutions provinciales, c'est-à-dire entre les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales. Cette disposition peut permettre à ce que les institutions provinciales fonctionnent normalement, parce que le gouvernement provincial doit être absolument contrôlé par l'Assemblée provinciale. Et nous devons y arriver.
Merci, Maître Soudi. Troisièmement, je vais vous redonner la parole pour conclure, Maître Soudi. On court derrière le temps. On va prendre cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kolwezi, dans le Lualaba.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba. Il est vrai que la gestion opaque de ressources s'observe dans nos provinces, comme l'a souligné le chef de l'État. Mais je crois véritablement que la vraie cause du non-développement de nos provinces, c'est Kinshasa. Car on ne peut s'en douter que Kinshasa est à la base du chaos qui règne dans toutes les provinces du pays, avant de parler des crises interinstitutionnelles qui, du reste, sont entretenues et instrumentalisées par Kinshasa à travers les notables des provinces, mais également le ministère de l'Intérieur. Et d'autres gouverneurs cherchent à être en bon terme avec Kinshasa qu'avec l'air administré. Et la décentralisation reste sur les plans formes et non dans les fonds. la problématique des retenues à la source des recettes provinciales ou la rétrocession, rien ne marche avec le gouvernement central. Je pense que le programme de développement des 145 territoires passe par le respect des textes liés à la libre administration des entités territoriales décentralisées. Tant que Kinshasa aura une mainmise dans le fonctionnement des ETD, rien ne marchera. Aussi longtemps que Kinshasa pense que celui qui a des experts dans tous les domaines qui peut les envoyer en désordre dans des provinces, rien ne changera.
Frédéric Amani, brève réaction.
Bien, merci beaucoup pour la réaction de l'auditeur. Tout ce qu'on peut dire en suivant bien sa question, il fustige le fait que Kinshasa absorbe les provinces, que ce soit au niveau politique et au niveau financier et au niveau administratif. Et moi, je pense que cela est réglé déjà par les textes. Il faut que les gouverneurs provinciaux dépendent des assemblées, c'est-à-dire soient contrôlés par les provinces et non dépendent, n'est-ce pas, des camps X ou Y. Et ensuite, la retenue à la source doit être démise pour permettre aux provinces de fonctionner. Et la caisse de péréquation doit aussi être bien gérée et doit connaître la transparence pour aider d'autres provinces à aller de l'avant. Et je pense que on compte aussi sur l'arbitrage ou l'œil vigilant du président de la République lorsque les tensions persisteront entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux pour les départager afin que l'intérêt général soit mis, n'est-ce pas, au devant des actions des animateurs des entités provinciales.
Après Colosi, on va revenir à Kinshasa pour écouter ce dernier auditeur qui nous appelle là.
Désolé Chilombo depuis Kinshasa. Les constats faits par le chef de l'État sur les causes du non-développement des provinces sont pertinents et reflètent une réalité souvent observée dans la gestion des entités décentralisées en RDC. Je pense que ces constats appellent à des réformes profondes et urgentes pour améliorer la gouvernance provinciale. La réussite du PDL 145 territoires dépendra de l'engagement des gouverneurs, de la coopération entre les institutions locales et de l'implication des communautés dans les processus de développement. Une gouvernance participative et responsable est la clé pour surmonter ce défi.
Fabrice Ngabo, une gouvernance participative et responsable est la clé pour surmonter tous ces défis, hein, soulignés ou voilà, évoqués par les gouverneurs des provinces. Fabrice Ngabo, est-ce que vous êtes en ligne? Je pense qu'on a perdu Fabrice Ngabo. Maître Soudi, vous allez devoir conclure. Alors, est-ce que vous pensez que c'est vrai que les travaux se clôturent demain? Il y aura sûrement des recommandations. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ces recommandations seront appliquées? Parce qu'on sent comme une sorte de détermination du chef de l'État de voir les provinces finalement décoller. Hein. Maître
oui.
Soudi.
Je pense que pour qu'il y ait un résultat positif et que les recommandations soient appliquées, il faudra que les institutions provinciales, parce que les grands problèmes dans tout ce que nous disons se situent à deux niveaux. Il y a la question financière et la question du fonctionnement des institutions provinciales. Les provinces ont un problème d'abord de mauvaise gestion des ressources. Les provinces sont victimes de la non-application de la retenue à la source. Les provinces sont victimes de l'utilisation des fonds destinés aux investissements des provinces par le pouvoir central. Donc, aussi longtemps que ces questions ne sont pas réglées par le pouvoir central, toutes les recommandations vont tomber caduques. Donc, il faudra que les chefs de l'État et le gouvernement central
puisse, dans la mesure du possible, arriver à une solution à cette question. Deuxièmement, la question du fonctionnement des institutions provinciales, les différents conflits entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Cette responsabilité revient au chef de l'État pour discipliner ces deux institutions, particulièrement les assemblées provinciales, avec l'arme fatale qu'il a, la possibilité de dissoudre une assemblée provinciale en cas de persistance des conflits entre les deux institutions. Parce que l'assemblée doit exister pour contrôler la gestion des provinces. Si on revient à des nominations des gouverneurs de provinces, on va instaurer des potentats dans différentes provinces qui vont s'ériger tout simplement à la caporalisation de tout ce qu'il y aura comme organe en dessous d'eux, et l'opération retour à Kinshasa va se formaliser et on va tomber dans une catastrophe de gestion et tout risque de s'arrêter.
Merci.
Le processus de la décentralisation a prévu tous les mécanismes nécessaires qui puissent permettre à ce que les choses marchent et qu'il s'agit ici tout simplement de respecter la Constitution et les textes en vigueur.
Frédéric Amani, votre conclusion, vous pensez que cette fois-ci, les textes seront appliqués, il y aura un suivi qui va se faire après la tenue de cette conférence des gouverneurs à Kalemi?
C'est le souhait de tous les Congolais, parce que lorsque les textes ne sont pas appliqués ou respectés, eh ben, on peut se contenter de se réunir et que cela doit être mis dans les tiroirs et ça ne sert à rien. Un autre élément, il n'y a pas de gouvernance provinciale sans le respect des textes. La cohésion communautaire passe par la promotion de la bonne gestion des ressources humaines pour promouvoir le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. La réussite des PDL 145 passe par la transparence dans l'affectation des fonds alloués à ces projets, mais aussi par un leadership pour aider à ce que les animateurs destinés à gérer ces projets puissent servir de bons exemples. Bref, puisque nous parlons de la gestion des affaires publiques, eh bien, nous souhaitons que ce soit pour la conférence et les recommandations qu'on mette l'intérêt général du peuple congolais ou des provinces dans, n'est-ce pas, les recommandations et que cela soit appliqué pour, n'est-ce pas, les progrès et le développement de la RDC. Nous leur souhaitons de fructueux travaux et nous pensons que cela soit appliqué pour le bien de la RDC.
Fabrice Ngabo, est-ce que vous êtes en ligne? Je pense qu'on a perdu Fabrice Ngabo, sa ligne pose problème.
Allô, madame.
Oui,
vous me suivez, madame?
Oui, vous êtes là, heureusement. Nous sommes en train de conclure l'émission, Fabrice Ngabo. Votre mot de la fin.
Bon, le mot de la fin, c'est que je note que l'élan du processus de la décentralisation a été interrompu par la non-application des dispositions relatives à la retenue de 40% à la source. Et donc, l'institution qui a ici entre ses mains le pouvoir de relancer ce processus de la décentralisation pour son achèvement s'appelle président de la République. Donc, il faut que le président déploie toute l'énergie pour pouvoir matérialiser ces dispositions et les provinces auront davantage les moyens, au-delà de leurs capacités relatives aux recettes internes, auront davantage les moyens pour pouvoir réaliser les missions qui les placent à la hauteur des attentes de la population. Ça, c'est un. Des deux, beaucoup d'auditeurs sont revenus sur le fait qu'il y a eu des précédentes résolutions et qui n'ont pas abouti et on y revient aujourd'hui. Et je pense que cela arrive dans une approche d'absence de planification des actions liées au fonctionnement des provinces. Et Maître Soudi a ingénieusement repris les cadres des matières qui doivent être traitées au cours de ce genre de conférences. Et donc, l'important aussi ici à souligner, c'est que les gouverneurs, au cours de cette conférence, ne devraient pas quitter le cadre des matières prévues par les textes. Parce qu'il y a là une forme, ce que je fustige quand même en tant que citoyen, une forme de politisation à outrance de cette conférence, parce que vous avez suivi quand même son Excellence Madame la gouverneure qui a fait, Fifi Masuka, qui a fait une motion relative au processus de changement de la Constitution. qu'est-ce que cela, Maître Soudi vous a rappelé les questions relatives au fonctionnement des provinces. Qu'est-ce que
La ligne de Fabrice Ngabo pose toujours problème. Est-ce que on peut les rappeler rapidement pour qu'ils puissent conclure réalisation? C'est possible de retrouver Fabrice Ngabo? Malheureusement, sa ligne n'y passe plus. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Dona Madimba, Arcel Kajourou, John Tiboua, Mimi Kindou et Debsovit a été à la mise en onde. Derrière les caméras, Jonathan plutôt Clément Timanga et Hervé Voka, présent sur les coordinations qu'elle écoutait, Martin Sebouchangui a supervisé ce programme. Restez branchés sur la fréquence de la paix.